Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce du Seigneur aujourd'hui dans chacune de vos occupations. J'ai pu vous envoyer hier le passage de Romains chapitre 8, versets 15 à 39, qui sert de texte de base pour notre réflexion ce soir. J'espère que vous avez pu le lire. Et dans la lecture, avoir les pensées focalisées sur cette question, mais pourquoi Dieu n'a pas supprimé la souffrance dans la vie des croyants depuis qu'ils sont sauvés? Mon propos n'est pas de prétendre à répondre à tous les problèmes de la souffrance, ce n'est pas ça du tout, mais à travers ce passage, regardez des principes que Dieu met à notre portée pour pouvoir cheminer et avoir une pensée du pourquoi elle est là, la souffrance dans nos vies, et comment vivre avec. Je vous ai donné donc la note. D'abord, à la base de tout cela, c'est le décret divin. Je l'ai formulé ainsi, Dieu a un plan très précis, une sorte de décret conçu depuis toute éternité. À savoir que ceux qui croiraient, voilà ce qu'il faut compléter, ceux qui croiraient en son Fils, qu'il allait donner comme leur sauveur, Dieu s'engageait à les conduire à la gloire. Ça, c'est le mot qu'il faut compléter. C'est-à-dire à la conformité parfaite avec ce Fils, d'abord dans ses souffrances, puis dans sa gloire. Telle est la destinée à laquelle il a prédestiné ou destiné à l'avance tous ceux qui librement répondraient à son amour. Verset 28, ceux qui aiment Dieu. Ceux-là, il les a connus d'avance comme croyants. Ici, il faut compléter, ce n'est pas cette préscience ou préconnaissance qui est à l'origine de leur foi. Mais Dieu, pour qui le temps n'existe pas, qui voit le futur comme le présent, a vu à l'avance le fait de leur foi. Alors il a dit, je le formulais ainsi ce décret, je te vois croyant. Je veux donc que tu sois glorifié à l'égal de mon Fils. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je te vois croyant. Je veux donc que tu sois glorifié à l'égal de mon Fils. Deuxième chose qu'il faut souligner aussi dans le verset 29 et 30 de Romains chapitre 8, la prédestination dont Paul parle n'est pas une prédestination à la foi, mais une prédestination à la gloire. Est-ce que vous avez remarqué au verset 29, ce qu'il a connu d'avance, ça c'est sa préconnaissance, préscience, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc la prédestination à la gloire et non pas à la foi. En d'autres termes, la prédestination ne détermine pas qui sera sauvé, mais concerne notre arrivée à la gloire. C'est la destination finale de tous ceux qui sont sauvés. Et Dieu, dans l'éternité passée, a déterminé que nous arriverons au ciel en pleine conformité avec Jésus-Christ dans sa gloire. Ça, c'est le décret important de le comprendre. Qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui? Dieu est en train d'amener toutes choses dans l'univers, dans nos propres vies, pour que tous arrivent à sa destination, à la gloire qu'il a prévue depuis toute éternité. Et en ce qui nous concerne, on va voir de quelle manière Dieu va le réaliser. Parce que Dieu veut avoir avec lui dans la gloire beaucoup de fils. Nous connaissons bien cela dans Hébreux 2.10. Et comme je viens de dire, pour atteindre ce but merveilleux, Dieu a prévu depuis toute l'éternité le plan pour le réaliser. Et le plan, nous voyons dans le verset 28, nous savons, j'attire votre attention tout de suite après, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, sa volonté, selon le décret qu'il a exécuté, en train d'exécuter. Nous savons, avec une certitude inébranlable, mais nous ne saurons pas donner une explication logique. C'est ça, il faut rester humble. Dieu nous demande d'accepter, de le savoir, mais souvent nous n'avons pas les moyens de les expliquer de manière logique. Et quand il dit toutes choses, ça veut dire tout, tout. Que ce soit les revers de la vie, les succès, que ce soit les faillites ou réussites, les épreuves, les joies, les catastrophes de tout genre, comme ce que nous venons de traverser, le Covid. On entend, il n'y a pas longtemps aussi, Ebola en Afrique. Et tout. Et Paul va énumérer au verset 35 jusqu'à verset 39. Il va énumérer ce qui peut faire partie de ces moyens que Dieu a à sa disposition pour nous amener à la gloire, sa gloire. Verset 35, tribulation provenant des circonstances extérieures, angoisse, la douleur intérieure provoquée par ces pressions extérieures, et les divers aspects des souffrances endurées pour le nom de Christ, comme Paul les a toutes connues. Vous pouvez voir dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. La persécution, la famine, la nudité, manque de vêtements, péril, l'épée, ça veut dire l'exécution jusqu'à la mort même. La diversité des situations humaines telles que la mort, la vie, avec ses lots de souffrances. Et encore plus, les actions des puissances célestes, terrestres, extérieures, comme les dominations, ça veut dire des puissances invisibles, hostiles. Que ce soit dans l'espace géographique, la hauteur, la profondeur, il parle, ou dans l'espace temporel, les choses présentes, les choses à venir, ou dans l'univers, aucune autre créature, verset 39. Savoir numéro un, qu'on peut dégager de tout cela, toute chose travaille de concert. Ça c'est le mot à compléter, dans la providence de Dieu qui gouverne l'univers pour notre meilleur, et ce meilleur bien, c'est notre arrivée à la gloire. Toutes les puissances de l'univers sont incapables de nuire, ça c'est ce qu'il faut compléter, aux croyants, et incapables de s'opposer à la réalisation du plan de Dieu pour nous. Ça c'est un fait qu'il faut savoir. Deuxième chose à savoir, au verset 17, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Avez-vous remarqué? Avec lui, avec lui. Avec lui dans la souffrance, avec lui dans la gloire. Le moyen que Dieu utilise pour nous préparer pour ce monde glorieux qui nous attend est la souffrance. Souffrance qu'il faut compléter. Je dirais c'est sa méthode pour nous préparer à entrer dans sa gloire, mais aussi pour produire l'espérance et la patience. Vous le remarquez bien que Satan utilise la souffrance pour détruire, ça c'est ce que je a complété ici, mais Dieu l'emploie pour construire en nous l'image de son Fils. Pour construire, c'est ce que Paul est en train de dire en Romains 5, versets 3 et 4, il dit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que, vous voyez, c'est le but à atteindre, l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Donc vous voyez les constructions de pas à pas dans ce que Dieu vise à travers la souffrance. C'est sa méthode pour nous préparer à entrer dans sa gloire. Et Paul détaille un peu plus maintenant au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tout compte fait, dit Paul, vérifiez dans votre expérience de la souffrance. À l'image que vous avez devant vous, une balance, un plateau, les souffrances du temps présent, et l'autre plateau, la gloire à venir. Selon Paul, il dit, les souffrances du temps présent est ultra léger, comparé à la gloire à venir. Pourquoi? Parce que le temps présent est court, face à l'éternité, et donc nos souffrances sont temporaires, bien qu'elles soient souvent profondes, comparées à l'éternité dans la gloire. Ce n'est pas une opinion que nous avons ici, mais une conviction. Et cette conviction est basée sur l'enseignement de l'ensemble de la Bible. Parce que nous voyons cela dans l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous laisse lire 1 Pierre 2, versets 19 à 25. Et dans l'expérience de l'apôtre Paul lui-même, Romains 5, versets 3 à 5. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Que je lis ainsi, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, vous voyez la comparaison, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Il faut retenir, savoir numéro 3, que la souffrance est le moyen que Dieu utilise pour notre entrée dans la gloire. Savoir cela est très important, car il nous permet non pas de nous focaliser sur le processus, ça c'est ce qui a complété ici, douloureux, en cours, et chacun de nous le savent, mais de nous focaliser sur sa finalité, ce pourquoi Dieu a permis qu'elle a sa place dans nos vies aujourd'hui. Sa finalité, c'est la gloire. Donc comprendre que c'est le moyen que Dieu utilise, c'est important parce qu'il nous permet non pas de nous focaliser sur le processus en cours, douloureux, mais de nous focaliser sur sa finalité, la gloire. Et dans ce décret que je viens de vous parler tout au début, nous allons rapidement, sans rentrer dans les détails, voir comment Paul déroule ce plan qui était conçu depuis toute l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. J'étais frappé, et je n'ai pas fait ce travail jusqu'à présent, sauf en préparant cette étude, en comparant la manière comment il construit le passage ici. Il y a la construction avec des relatifs, il a, il les a, et ces constructions est reprise avec des démonstratifs. Avez-vous remarqué, 4 fois au verset 29, il y a « ce », une fois, et au verset 30, « ce »,« ce », »,« ce ». Et tout est lié avec la conjonction de coordination « et »,« et », »,« et ». Ça communique quoi? Ça communique quelque chose de logique, quelque chose qui est en train d'être en mouvement, je dirais chronologique. Et surtout, ce qui est souligné, c'est la cohérence dans le plan divin. C'est, je dirais, les étapes pour passer d'un point A à un point B. Et permettez-moi d'illustrer comme un algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est tout simplement des suites d'instructions à exécuter étape par étape pour passer d'un point A, à un point B dans la résolution d'un problème. N'empêche que l'image n'est pas tout à fait correcte parce qu'ici il ne s'agit pas de résoudre un problème, mais ici il s'agit de plans détaillés que Dieu met à notre portée. Chers frères et sœurs, savoir numéro 4, hein, derrière le gémissement de la création, la détresse et le désordre actuel dans la création, c'est ce que nous lisons au verset 20 à 25, ce soupir, ce gémissement, hein, cet enfantement, cette douleur, du verset 20 à 25, derrière tout cela, il y a un ordre. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. Un ordre, un plan divin qui se réalise, c'est le dessein de Dieu global pour les croyants. Et ce dessein, ce décret, nous l'avons vu au Romains 8, versets 28 jusqu'à 30. Mais permets-moi, frères et sœurs, de vous dire et attirer votre attention. Savoir, jusqu'à maintenant, c'est de savoir, je vous ai mis savoir, 1, 2, 3 et 4, savoir que ma souffrance fait partie de ce dessein de Dieu, nous éclaire. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. C'est très important ce savoir, mais ne suffit pas à apaiser, voilà le mot ici, nos souffrances et nos douleurs. Je le répète, savoir que ma souffrance fait partie de ce processus, de ce dessein de Dieu, nous éclaire et nous fait comprendre que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la fatalité. C'est clair, c'est dans le plan de Dieu pour chacun de nous. Mais le savoir ne suffit pas pour apaiser nos souffrances et nos douleurs. Il nous faut quelque chose d'autre. Et c'est dans ce passage. Parce que Dieu voit que nous souffrons douloureusement le contraste entre la gloire qui nous attend et notre condition actuelle. Souffrances diverses qui touchent notre santé, soit du point de vue matériel, soit du point de vue psychique, relationnel, spirituel, et que sais-je. Donc nous avons besoin de l'aide surnaturelle, savoir numéro 5, de l'aide surnaturelle du Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 et 27. Donc l'aide surnaturelle du Saint-Esprit pour nous accompagner dans cette situation. Et vous savez, la vie chrétienne est conçue par Dieu pour avoir un besoin d'aide de sa part de manière surnaturelle. Oui, le verset 26 et 27 nous pose la question, quand on est dans la souffrance, est-ce qu'il faut aller prier Dieu, vite enlève-moi de là? Ou est-ce qu'il faut prier, et ça n'est possible que d'une manière surnaturelle par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, de dire Dieu accomplit à travers cette souffrance que je vis, ce qui contribue à ma conformité à l'image de Jésus quand je serai avec lui dans sa gloire, dans la gloire. Il faut l'aide de Dieu pour prier, être convaincu ainsi. Nous avons besoin aussi de Dieu, de sa personne et de son amour. Et ce passage parle de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Quelle est la preuve? Petit a, la preuve c'est l'amour de Dieu démontré dans le don de son fils. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui n'a point épargné son propre fils. Dieu a démontré qu'il nous aime par le don de son fils. Aussi, par l'amour de Christ lui-même. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est celui, c'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Et comment, quelle est la preuve que Dieu nous aime? Troisième point, l'amour de Dieu manifesté par son activité. Ça, c'est le mot qu'il faut mettre ici. Incessante dans notre vie. Regardons rapidement cela. L'amour de Dieu manifesté par son activité incessante dans notre vie. Romains 8, versets 35 à 39. Donc je voudrais souligner ici, dans le verset 35 à 39, un aspect de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que vous avez remarqué, du verset 35 à 39, j'espère que vous avez votre Bible ouverte avec vous, verset 35, il commence ainsi, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il va utiliser de manière hyperbolique toutes sortes de situations. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, aimer? Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Face à cette illustration de manière hyperbolique des diverses situations qui pourraient arriver, il le met en contraste pour montrer le poids que cela ne nous sépare pas de l'amour de Christ ou de l'amour de Dieu. Et c'est important, ici, je suis très frappé, je vous le dis, par le vocabulaire de l'amour dans ce passage, au verset 35 et au verset 39. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est le mot « sépare », c'est le verbe « séparer ». Donc ici, on peut parler de l'amour conjugal avec insistance sur la non-séparation. Et le verbe « séparer » au verset 35 et 39, c'est traduit le grec « chorizo ». Et ce mot « séparer », ce verbe plutôt, est utilisé en Marc 10, verset 9, notez-le, Matthieu 19, verset 6, et 1 Corinthiens 7, verset 10, verset 15. En Marc ou en Matthieu, nous sommes dans un contexte où les pharisiens, pour piéger Jésus, est venu lui demander « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Jésus répond sur la base du mariage en citant Genèse 2, 24 « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et à partir de cela, il va tirer une conclusion. Et c'est la conclusion que je vous cite ici dans Marc 19. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, le mot verbe séparer en romain ici, c'est exactement le même verbe utilisé dans le contexte du mariage, hein, ici, qui est inviolable dans Marc 10, verset 9. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc cette impossibilité de la séparation est basée par au moins quatre choses. Je vais rapidement énumérer. Cette impossibilité de la séparation est basée sur la certitude de l'accomplissement des plans de Dieu. Romains 8, versets 28 à 30. Je ne reviens pas là-dessus. Ça c'est la base sur laquelle cette séparation est impossible, comme l'indissolubilité du mariage. Deuxième chose, par la démonstration de l'amour de Dieu dans le don de son Fils. Nous l'avons évoqué. Par l'amour de Christ lui-même, au verset 37, nous l'avons évoqué. Mais aussi, par la victoire de Christ sur l'adversaire, les puissances sataniques hostiles, Romains 8, versets 38 et 39. Chers frères et sœurs, notre victoire n'est pas due à cause de nos propres triomphes grâce à nos efforts, mais basée sur l'impossibilité de la séparation à l'image de l'indissolubilité du mariage par l'absolu engagement de Dieu pour nous, comme dans un amour conjugal et qui nous donne certitude d'être définitivement aimés quoi qu'il arrive. C'est fort. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, dans l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens qui ont souffert énormément jusqu'au martyr ont persévéré. Parce que c'est Dieu qui t'est engagé, à l'image de l'indissolubilité du mariage, s'est engagé pour son amour envers nous, de venir nous soutenir dans ces moments difficiles. Chers frères et sœurs, la question dont nous nous sommes posés, pourquoi Dieu n'a pas supprimé, ni gommé, si vous voulez, la souffrance depuis que nous sommes sauvés? Il n'a pas supprimé, parce que nous venons de voir, c'est dans le décret conçu depuis toute l'éternité. C'est le moyen utilisé par Dieu pour nous préparer dans l'entrée dans la gloire. Souffrance d'abord, gloire après. Et je dirais, ça c'est le destin de Christ quand il est venu ici-bas pour venir prendre notre misère, venir prendre nos péchés sur lui et mourir sur la croix à notre place. Lui qui sans péché, une vie parfaite, est venu être le substitut pour nous, pour payer les conséquences de nos péchés. Et Dieu a justifié l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il est entré dans la gloire qu'il avait depuis toute éternité. Et c'est aussi pour nous le même destin. Souffrance d'abord, gloire après. Je vous cite en référence 1 Pierre chapitre 2 verset 20 à 21 et 1 Pierre 5, 10. Je voudrais souligner ceci. Parfois la souffrance est passagère. Mais pour d'autres, c'est jusqu'à leur dernier souffle. Je pense aux maladies mentales qui frappent ceux qui nous sont chers, comme l'autisme, la trisomie, le TOC, les malformations congénitales et beaucoup d'autres. Et vous savez, pour terminer, je voudrais partager le témoignage dont j'ai été béni hier soir, le coup de fil là, que j'ai pu avoir auprès de mon frère Daniel, là, auquel nous prions souvent. Il m'avait dit au téléphone hier, Lala, je suis assailli. Je suis envahi chaque jour par le TOC. Écoutez bien, il m'a répété au moins 5 fois. Il est envahi chaque jour par le TOC. Mais il parlait à lui-même en disant, Daniel ne lâche pas. Il faut résister, 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 résister. J'étais très encouragé d'entendre cela de la part de mon frère. Oui, c'est Dieu qui donne sa force ainsi pour équiper nos pensées, et ceci de manière surnaturelle, pour pouvoir tenir. Comme il l'a dit, je suis envahi chaque jour, mais il faut qu'il résiste. C'est le message pour nous aussi, sachant plus maintenant pourquoi Dieu a permis la souffrance dans nos vies. Oui, que nous puissions permettre, et d'une manière sincère devant Dieu, s'il ne le permet pas de nous enlever la souffrance, c'est de lui permettre à ce que sa grâce nous accompagne pour que cette souffrance accomplisse son dessein. Le but qu'il a pour nous tous d'entrer dans sa gloire en conformité avec l'image de son Fils. Que Dieu vous bénisse et que ces quelques pensées puissent nous aider à surmonter les difficultés que nous traversons maintenant. C'est pas le hasard, c'est prévu par Dieu depuis toute éternité. Et si vous regardez ce que vous traversez dans cette perspective globale, comment Dieu a prévu la vie chrétienne, vous serez soulagé, vous serez encouragé. Et c'est ça que je voudrais partager, que Dieu vous aide et qu'il puisse vous fortifier pour sa gloire et dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Au revoir.